Il est là, il est là, il est là, il est là, pardon. Excusez-moi, j'ai mon Stream Deck qui a lâché, je sais pas pourquoi. Sans aucune forme de raison. Ça me saoule d'aller le dépluguer sous l'ordinateur et de revenir. Est-ce que vous allez bien, les petits amis? Est-ce que ça va? Salut, le contre-stream de Klemovic. Non, c'est certainement pas un contre-stream de Klemovic. Hors de question, bien sûr que non. Le camarade Clément fait bien ce qu'il veut. Et heureusement. Bienvenue à toutes et à tous. Ça fait plaisir de te voir de retour hors backseat, évidemment. Oui, je suis content. Alors, je vous garantis pas qu'on va refaire des streams absolument tous les jours sur les modèles d'avant. Ça va prendre peut-être encore un peu plus de temps. Mais là, j'avais une santé négative ces dernières semaines. Donc, c'est pour ça que j'ai levé le pied sur les streams. Content du retour également. Bah, ça me fait plaisir. Ça me fait super plaisir. Ça va un peu mieux. Oui, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. C'est pas encore parfait, mais ça va un peu mieux. La santé d'abord. Ouais, je sais, je sais, je sais. On garde la santé, c'est le plus important. Merci The Dooft pour ton abonnement. Merci Harry. Merci Néodyme. Merci Tifedor. Merci pour vos subs. Faut prendre soin de soi. Exactement, faut prendre soin de soi, c'est le plus important. Le reste n'est que secondaire. Et donc voilà quoi. T'étais absent pour voler la statue de cire de Macron. J'ai pas vu, il y a quelqu'un qui a volé la statue de cire de Macron? Genre au musée Grévin? J'ai pas suivi cette news-là. Merci Oursman et merci Exodes. Merci les copains. Greenpeace? C'est Greenpeace? Au musée Grévin? C'est débile. C'est très drôle. D'accord. On les a connus plus spectaculaires, Greenpeace, quand même, en termes d'action mémorable. Mais bon. J'allais faire la blague qu'on avait levé le pied sur les subs, mais dans mon cas, c'est juste un renouvellement de CB qui a stoppé le bordel. J'attends la nouvelle. Ah, bah, je te fais confiance. Je croise les doigts pour que tu reviennes. Mais oui, je sais ce que c'est, les renouvellements de cartes bancaires. Évidemment, ça fout le bordel. Ça désabonne tout le monde, etc. Est-ce que tu regardes les QAG en live même quand tu streames pas? Non. Non. Non, je ne m'inflige pas ça, faut pas déconner. Non, je déconne, c'est pas s'infliger quelque chose. Vous savez très bien que c'est une séance que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais c'est une séance que j'aime bien streamer. Voilà, pour moi, c'est ça le plus important. Merci, Marogue, pour ton resub, merci. Merci, Flobérus. Parce que vous regardez les séances de questions au gouvernement quand je suis pas là? Vraie question. Est-ce que vous regardez les questions au gouvernement quand je suis même pas là? Non. Oui. Non. Oui. Non. 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 Il y a quelques oui. Je note. Je note qu'il y a quelques oui dans une marée de non. C'est rare, mais ça arrive. Ah non, mais très bien. Hein. Bah bravo à ceux qui le font. Merci Blooby. Pendant la grande coupure, oui, sinon non. Ah oui, la grande coupure de l'année dernière. Non, mais en fait, ça dépend aussi de l'actualité politique. Moi, je vais pas vous mentir, en ce moment, j'ai du mal à suivre l'actualité politique. Déjà, mon état de santé est pas au top, donc j'ai un peu de mal à suivre quoi que ce soit, déjà, pour commencer. Mais en plus de ça, l'actualité politique, en ce moment, elle est chiante, quoi. Je veux dire, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Enfin, ici, il y a des petits trucs qui bougent légèrement. Et ça, on en parle dans Backseat à chaque fois. Hein. C'est des sujets d'actu dont on parle dans Backseat. Mais les questions au gouvernement à l'Assemblée en ce moment, un gouvernement aussi faible que celui de François Bayrou, tout le monde est dans l'expectative soit de la dissolution, soit du prochain budget qui va être la mère des batailles. Est-ce que tu peux m'expliquer le move de passer une loi 149.3 sans vote à l'Assemblée sur la loi agriculture, je pige rien. Je peux essayer de t'expliquer, ouais. Comment elle s'appelait cette loi déjà? Il y en a qui ont le nom. La fameuse loi sur les agriculteurs, la loi en faveur de l'agrobusiness. La loi du plomb. Merci beaucoup. C'était la loi du plomb. Félicitations. En fait. Comme vous le savez, une loi pour être adoptée, il faut qu'elle passe par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Elle fait soit un aller-retour dans le cadre d'une procédure accélérée, soit deux allers-retours dans le cadre d'une lecture classique. À chaque fois, l'Assemblée nationale et le Sénat modifient la loi, puis à la fin, soit on se met d'accord, soit si on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Et donc là, le but de la manœuvre, c'est qu'en fait, la loi a été adoptée en première lecture au Sénat, elle est arrivée à l'Assemblée nationale, elle a été amendée en commission, hein, les différentes commissions qui se sont saisies, notamment la commission qui s'occupe de l'agriculture, ont modifié la loi, etc. Et c'est au moment de l'arrivée de la loi en séance publique, donc dans l'hémicycle, là où il y a d'autres amendements qui viennent se surajouter, que des députés ont décidé de faire de l'obstruction parlementaire contre cette loi. Donc il y a eu plusieurs milliers d'amendements qui ont été déposés, dont un grand nombre sont clairement et objectivement de l'obstruction parlementaire. Ça, c'est pas grave, c'est pas la première fois. Et il a été décidé par la majorité, notamment par le rapporteur du texte lui-même, de déposer une motion de rejet préalable, c'est-à-dire de faire voter les députés avant même que la loi soit examinée, pour la rejeter ou pour l'adopter. Normalement, la motion de rejet préalable, c'est un truc qui est défendu par les opposants au texte, qui proposent de rejeter le texte. Là, ce sont les défenseurs du texte qui ont proposé eux-mêmes le rejet de la loi. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour skipper toute la partie obstruction parlementaire et débat dans l'hémicycle pendant plusieurs jours, pour renvoyer directement la loi à une commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée. Et la commission mixte paritaire, dans laquelle siègent 7 députés et 7 sénateurs, va négocier pour tomber d'accord sur une loi, une formule, disons, de la loi. Puis le texte reviendra à l'Assemblée, mais cette fois-ci pour être voté, pas pour être amendé, pour être voté. Juste voter. Et donc, il n'y aura pas les amendements d'obstruction qui seront adoptés, qui seront même examinés d'ailleurs. Voilà. J'espère avoir été clair parce que je me rends compte que là, on est dans vraiment l'explication de la technicité de la navette parlementaire. Oh, ça pourrait être pire encore, tu me diras. Est-ce que c'est pas antidémocratique de faire ça? Est-ce que je suis le juge de la démocratie? Non. Les gens qui font ça estiment le faire pour de très bonnes raisons, pour éviter l'obstruction parlementaire. Et à la fin des fins, il y aura bien un vote. On ne peut pas ne pas avoir de vote. Il y aura un vote à l'Assemblée nationale qui viendra définitivement faire entrer en vigueur le texte. Elle est là, la démocratie. Ça, c'est ce que te répondront les partisans du texte. Voilà. Elle parle de quoi, la loi? C'est une loi sur l'agriculture qui lève les différents freins à l'exercice de la profession agricole, enfin des agriculteurs, pour faire simple. Et c'est une loi qui a été dictée en grande partie par les lobbies de l'agrobusiness. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres des filouteries comme ça? Là, en ce moment, non. Non, il y a le 49-3 que vous connaissez bien, parce que vous suivez ma chaîne, donc vous connaissez. Et merci Bébert, et merci Ticlem pour vos resubs, merci beaucoup. En utilisant cette astuce, est-ce que ça empêche le 49-3 après? Non. Non, sur le vote solennel, il pourra toujours y avoir un 49-3, c'est possible. Il pourra toujours y avoir un 49-3 à l'issue de la commission mixte paritaire à l'Assemblée. Mais le 49-3 ne sera engagé que si le gouvernement a peur que le vote soit négatif. Si le gouvernement est confiant, compte tenu du fait que la motion de rejet a été votée par une majorité, je pense que le gouvernement peut être confiant. Un 49-3 en ce moment, c'est risqué un peu. Ça dépend du sujet, ça dépend du 49-3. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est un peu. Effectivement, tu as raison, le François Bayrou n'est pas le Premier ministre le plus assuré de l'histoire de la Ve République. Est-ce que c'est bientôt la date qui permet une nouvelle dissolution? Est-ce que ça risque d'avoir lieu? Alors, la date à partir de laquelle on pourra avoir une prochaine dissolution, c'est le 2 juillet, je crois, de mémoire. Est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait une dissolution? Non, il y a assez peu de chances qu'il y ait une dissolution. Emmanuel Macron a dit qu'il n'avait pas l'intention de dissoudre à nouveau. Après, Macron, il a déjà été surprenant, hein. Est-ce qu'on a la composition exacte de la CMP par bloc politique? Ce sont les commissions saisies au fond qui désignent des membres. Mais la loi est majoritaire. Hein. La loi est majoritaire à la CMP. Ça, il n'y a pas de risque que la CMP soit non conclusive. Faire un 49-3 sur une loi aussi mineure, est-ce que c'est pas overkill? Si. Si, je pense. Je suis comme toi. Je pense que c'est overkill. Le RN va la voter en plus, donc ça n'a aucun intérêt. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, le RN a d'ores et déjà dit qu'il était favorable à l'adoption de cette loi. Et les macronistes, ils ont montré, par leur vote sur la motion de rejet, qu'ils étaient aussi favorables. Donc, enfin, c'est paradoxal ce que je suis en train de vous dire. Vous avez bien compris que je suis en train de vous dire qu'une motion de rejet a été adoptée, ce qui est bien la preuve que la loi est majoritaire. Ouais, c'est absurde. Oui, c'est absurde. Et le gouvernement ne peut pas tenter une quantité illimitée de 49.3 sur tous les sujets à l'heure actuelle. Ah non, mais tu as raison d'ailleurs, excuse-moi, mais j'aurais dû vous le rappeler, tu as parfaitement raison. Le gouvernement ne peut pas adopter des 49.3 comme ça en claquant des doigts tout le temps, hein. Je vous rappelle que le gouvernement ne peut adopter qu'un seul 49.3 par an hors budget. On me dirait le budget, c'est important, oui, mais sur le reste des lois, le 49.3 n'est pas une baguette magique. Pourquoi ils ont refusé de discuter des amendements? J'ai pas bien suivi. Parce que les amendements qui ont été déposés étaient des amendements d'obstruction. Le but, c'était d'empêcher l'adoption du texte. Bon, après, si le gouvernement et la majorité, enfin, et la majorité, si le gouvernement et les macronistes avaient vraiment voulu quand même discuter des amendements, ils auraient pu faire un temps législatif programmé qui limite la quantité de temps dont dispose chacun des groupes pour défendre leurs amendements. C'est pas une fois par session? Si, c'est une fois par session. Mais je vulgarise en disant une fois par an, pour que ce soit plus simple à comprendre. Parce que si je commence à rentrer dans l'explication de ce que sont les sessions ordinaires et extraordinaires, on n'est pas sorti. Mais tu as raison, oui, c'est une fois par session. Est-ce que la suppression des ZFE va être annulée par le Conseil constitutionnel? Quand est-ce que ce sera analysé? Alors ça, je ne sais pas quand est-ce que le Conseil constitutionnel sera amené à se prononcer là-dessus. Il faut déjà que la loi soit votée en dernière lecture. Donc on n'y est pas encore. Hein. À moins que c'était un vote définitif. Auquel cas, ça peut aller vite. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura une session extraordinaire cette année? C'est une bonne question. Les sessions extraordinaires, c'est en général au mois de juillet. Et il y en a une autre qui peut avoir lieu au mois de septembre. Donc on aura peut-être une session extraordinaire tout le mois de juillet et une autre session extraordinaire tout le mois de septembre. J'essaye de réfléchir, hein, mais ça me paraît bancal quand même. Ça me paraît bancal vu le faible volume de lois qu'il y a à examiner en ce moment. Yael Braun-Pivet veut une session extraordinaire en juillet. Oui, mais ça c'est normal, Yael Braun-Pivet, elle est présidente de l'Assemblée, donc elle a besoin que l'Assemblée pèse dans l'agenda politique. Donc c'est normal que la présidente de l'Assemblée dise il faut des sessions extraordinaires, c'est normal. Ça me choque pas. J'ai pas suivi, mais il me semblait que les débats sur le projet de loi sur la fin de vie avaient repris. Est-ce que c'est toujours en cours? Bah, ça a été voté à l'Assemblée nationale en première lecture, maintenant ça va aller au Sénat, et je crois que le Sénat ne va examiner la loi que à l'automne prochain. Donc on a du temps, hein. La loi fin de vie, elle n'est pas encore entrée en vigueur. Alors en plus, est-ce que c'est une procédure accélérée ou pas? Parce que si c'est pas une procédure accélérée, ça peut durer encore plus longtemps. Ce jeudi, on aura la niche parlementaire des communistes. Oui, ce jeudi, c'est la niche parlementaire du groupe communiste. Est-ce que tu sais quels sont les projets de loi, les propositions de loi, pardon, qu'ils ont l'intention de défendre? J'ai pas regardé, hein. J'ai pas regardé. va enfin y avoir la loi sur le statut de l'élu qui va passer à l'Assemblée le 30 juin. Ok. Non, mais vous voyez que, enfin, tout ça, c'est pas des lois centrales, hein. Tout ça, c'est pas des lois. Ce sont de petites lois qui ont leurs importances pour les personnes concernées, évidemment, mais c'est pas des lois structurantes d'un quinquennat. Ce ne sont pas des grandes réformes. La grande réforme, ce sera le budget. Et le budget, j'ai pas besoin de vous faire un rappel sur la quantité de pression que met François Bayrou sur l'importance de faire passer un budget équilibré, tout ça, avec 40 milliards d'euros d'économie. Et la proportionnelle, point d'interrogation. La proportionnelle, point d'interrogation, j'ai pas d'informations. Je sais pas où on en est pour la proportionnelle, parce qu'en plus, c'est un casus belli potentiel entre le gouvernement et les Républicains. Les Républicains sont opposés à la proportionnelle. QAG demain. Alors moi, demain, je ne ferai pas les QAG. Demain, je ne ferai pas les QAG parce qu'à la place, j'ai un live sponsorisé. Je suis en partenariat avec le Crédit Mutuel. En fait, pour être plus exact, le Crédit Mutuel est en partenariat avec Baxit. Et dans le cadre du partenariat avec Baxit, il y aura un Bifor. Mais avant le Bifor, je fais une émission demain à 10h30 en direct du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Et je vais interviewer plusieurs personnes pour parler du dividende sociétal du Crédit Mutuel. Pour ceux qui ne le savent pas, le Crédit Mutuel, c'est une banque mutualiste. Donc c'est une banque qui appartient à ses adhérents. Et les adhérents ont décidé chaque année de reverser, je crois que c'est 15% du bénéfice total de la banque à des organisations d'intérêt général, notamment des associations. Et pour en parler, demain, je fais un live spécial à l'occasion d'un événement qui est organisé par le Crédit Mutuel au CESE pour vous présenter un certain nombre de bénéficiaires. Il y aura aussi le président du Crédit Mutuel qui sera sur mon plateau. Et je vais vous présenter des assos demain. En direct du palais de Iéna. Oui, en direct du palais de Iéna. En fait, dans tout le Parlement, il n'y a que les Républicains qui sont opposés au parlementarisme. De quoi? Comment ça? Sur la base de quoi? Comment vous choisissez les sponsors que vous acceptez? Ben, en fonction du montant d'argent qu'on réussit à récolter pour financer Baxit, et en fonction de l'intérêt éditorial aussi du partenariat. Si c'est l'occasion de présenter au public de Baxit des personnes, des institutions qui sont méconnues, ben, la semaine dernière, on avait la Banque de France, par exemple. On avait le gouverneur de la Banque de France lui-même sur le plateau qui est venu vous présenter la Banque de France. Ça s'appelle de l'instruction civique à balles réelles. On avait l'AFD, ouais, on avait l'Agence française de développement aussi. C'était cool ça. La Banque de France, ça paye bien. Suffisamment pour que ce soit un Bifor de Baxit. Qu'est-ce que je te dise? Sinon, on l'aurait pas fait. François Bayrou doit convoquer les écologistes, les socialistes, l'IOT, les communistes, l'UDR pour parler du scrutin proportionnel. Oui, c'est les fameuses consultations organisées par François Bayrou qui réunit à Matignon les différents représentants des groupes à l'Assemblée nationale pour discuter du sujet de la proportionnelle. Est-ce qu'il n'y a que LR qui est opposé à la proportionnelle? En fait, je suis en train de m'interroger si les macronistes de Renaissance sont favorables ou pas à la proportionnelle, j'en suis pas persuadé. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'il y a des gens qui ont assez de mémoire pour se souvenir du programme de Macron en 2017? Est-ce qu'il y avait la proportionnelle? Je suis pas sûr. Hein. Ah, peut-être que si, il y avait la proportionnelle parce que Bayrou s'est rallié. Donc, ouais. Ouais, il y avait une dose de proportionnelle, c'est ça. Il y avait une dose de proportionnelle, mais sans être plus précis. Bon, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Gabriel Attal est favorable à la proportionnelle? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Le problème, c'est qu'ils sont pas tous pour la même proportionnelle, ça promet. Oh, si, j'ai cru comprendre que pour l'instant, il y avait un relatif consensus autour des proportionnelles par département. Non, par contre, ce que pourrait vouloir faire François Bayrou, c'est de joindre à la proportionnelle le cumul des mandats. François Bayrou veut réintroduire le cumul des mandats qui a été supprimé par les socialistes en 2014. Et il veut le réintroduire et il pourrait faire une même loi dans laquelle il y a la proportionnelle plus le cumul des mandats. Et là, la gauche, elle serait bien emmerdée. Qu'est-ce que vous faites, vous, si vous êtes de gauche? Est-ce que vous votez une loi dans laquelle on passe à la proportionnelle, mais il y a le cumul des mandats qui est rétabli en même temps? C'est emmerdant, hein? Ça s'appelle du chantage. Non, c'est pas du chantage, ça s'appelle une loi à l'Assemblée nationale. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. C'est deux lois différentes? Non, c'est pas deux lois différentes, parce que c'est deux lois qui touchent à la même chose. Les élections, les mandats et les élus. C'est de la stratégie plus que du chantage. C'est de la politique, les copains. C'est de la fucking politique. Mais on verra si les Républicains réussiront à bloquer le projet, hein. On verra si les Républicains vont parvenir à empêcher l'arrivée du texte sur la proportionnelle sur le bureau des députés, sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a quand même une habileté, je trouve, de la part de François Bayrou, qui est loin d'être un con, qui a annoncé que les résultats des consultations sur l'organisation de la proportionnelle auront lieu après l'été. Ce qui est une manière de dire. Il n'y aura pas de dissolution avec la proportionnelle. Croyez pas qu'on va voter la proportionnelle avant l'écoulement du délai d'un an entre deux dissolutions. Est-ce que les LR au Sénat ont un poids suffisant pour bloquer? Non, parce qu'il n'y a pas besoin d'une loi organique pour faire passer la proportionnelle, c'est une loi simple. Donc le Sénat peut pas bloquer. Le Sénat est contre, évidemment, parce que la majorité à droite du Sénat ne veut pas de proportionnelle, mais ça. Macron ne compte pas dissoudre pour éviter l'instabilité politique. Ah mais oui, sinon, tu as parfaitement raison. Macron ne veut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Hein. Macron ne souhaite pas dissoudre l'Assemblée nationale. Toute la question, c'est toujours la même. Est-ce qu'à un moment, il va se retrouver dans une situation dans laquelle il n'aura plus le choix? Si Bayrou tombe sur une motion de censure, par exemple, et si Emmanuel Macron essaye de trouver un nouveau gouvernement mais qu'il n'y parvient pas, alors Emmanuel Macron sera contraint de constater le blocage à l'Assemblée nationale et donc d'utiliser la dissolution pour demander aux Français d'envoyer une nouvelle Assemblée nationale plus claire. Plus claire, on croise les doigts, hein, c'est pas. Plein de gens pensent à une nouvelle dissolution après la présidentielle de 2026, comme l'actuelle Assemblée va jusqu'en 2029, le nouveau président doit dissoudre pour gouverner avec une nouvelle majorité. Oui, ça c'est vrai. Mais parce que toi là, tu parles d'une présidentielle. Moi, je ne parle pas de présidentielle. On verra bien. Ça m'étonnerait que Macron démissionne avant 2027. Mais si je compte le nombre de fois où j'ai prononcé « ça m'étonnerait que Macron, virgule, blablabla », moi, je sais plus, les gars. Hein. Moi, je sais plus. Hein. Vous voulez de l'analyse politique? Moi, au point où on en est, c'est de la divination. Hein. on verra. On verra, on peut être surpris. On est d'accord, on peut avoir une dissolution en juin. Non, la prochaine dissolution, ce sera à partir de juillet. Parce que on démarre le chrono à partir du second tour des précédentes élections législatives. S'il y a une nouvelle dissolution, est-ce que tu vois un Premier ministre dans la même lignée que Barnier ou Bayrou, un homme ou une femme de compromis et de la discussion? Bah, ça dépendra de l'Assemblée. C'est pas moi qui décide, c'est l'Assemblée, hein. Il y a une forte probabilité de chance que le prochain Premier ministre s'appelle Jordan Bardella, je vous rappelle, hein. Je vais pisser sur ces sages paroles et je reviens. De retour, de retour, de retour, de retour. Pardon pour cette interlude. Si Bayrou persiste avec sa dinguerie de TVA sociale, il y a des chances qu'il saute. Mais attendez, 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 parce que la TVA sociale de François Bayrou, là, c'est une vraie proposition qu'il a faite ou c'est des rumeurs qui circulent? C'est peut-être une vraie proposition, hein. J'ai probablement pas lu assez d'articles. Pour moi, alors la TVA sociale, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, la TVA sociale, c'est une augmentation de la TVA, donc vous payez plus à chaque fois que vous passez à la caisse, et ça participe à financer la sécurité sociale. C'est un impôt sur les pauvres pour financer la sécu des pauvres. On va dire ça comme ça. En tout cas, ça c'est l'argument qui est sorti par les opposants à la TVA sociale. La TVA sociale, elle a une histoire parce qu'elle était entrée en vigueur. Nicolas Sarkozy avait fait voter la TVA sociale. Hein. Je m'en souviens très très bien. En 2011-2012, la TVA sociale avait été votée et François Hollande, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a supprimé la TVA sociale. Pourquoi un impôt sur les pauvres? Tout le monde paye la TVA. Oui, mais la TVA ne représente pas le même poids pour tout le monde. Pour une personne pauvre, la TVA est un impôt très important, parce que le seul argent qu'elle a, la personne pauvre, elle le dépense. Les personnes qui ont le pouvoir d'épargner payent moins de TVA en proportion de leur budget. C'est pour ça que la TVA est un impôt sur les pauvres, qui a toujours été dénoncé, hein, par la gauche, en l'occurrence, qui s'y est toujours opposée. Y compris les touristes, et ça c'est tout bénef. Y compris les touristes, oui, les touristes payent la TVA, et les touristes payent aussi la taxe de séjour. Vous savez, quand vous allez à l'hôtel, vous devez payer la taxe de séjour. Ben voilà. C'est un impôt. Au moins, tout le monde la paye, la TVA. Bah, c'est-à-dire que les pauvres n'ont pas vraiment les moyens de frauder, hein. C'est un peu compliqué de ne pas payer sa TVA quand tu passes à la caisse chez Leclerc, tu vois. Qu'est-ce que tu dis à la caissière? Tu dis non, je veux pas payer là. Cependant, les cotisations sociales ne sont pas progressives non plus. Si, il y a des cotisations sociales qui sont progressives en fonction de ton salaire, puisque c'est un pourcentage de ton salaire, donc c'est progressif par nature. Tu payes plus de cotisations si tu as un salaire plus important. Est-ce qu'il faudrait une révision constitutionnelle pour changer le mode de scrutin du Sénat? Genre la proportionnelle par département. Alors il y a déjà la proportionnelle par département dans la plupart des départements de ce pays pour les élections sénatoriales. Et d'autre part, est-ce qu'il faut réviser la Constitution? C'est une bonne question que tu poses. Je suppose oui. À vérifier. Là, pour le coup, j'ai pas le fin mot de l'histoire. Mais ça m'étonnerait pas que dans les articles sur le Sénat, dans la Constitution, ils précisent le mode d'élection. J'ai jamais compris si les entreprises payent la TVA, vu qu'ils raisonnent toujours en hors-taxe. Non! Les entreprises ne payent pas la TVA. Les entreprises collectent la TVA. C'est un truc qu'il faut apprendre quand on est entrepreneur ou qu'on commence à gérer de l'argent, etc. C'est que tout l'argent qu'il y a sur ton compte en banque n'est pas ton argent. Il y a une fraction de cet argent qui s'appelle la TVA qui ne t'appartient pas. Il est juste temporairement sur ton compte, le temps que l'État vienne le chercher. Vaut mieux le savoir et garder ça en tête plutôt que se retrouver dans la merde avec des dettes de TVA. Parce que il y a des auto enfin il y a des auto-entrepreneurs, il y a des entrepreneurs, des petits, des indépendants, etc., qui peuvent se retrouver vite dans la merde. La TVA, c'est neutre pour les entreprises. Oui, c'est ça. En fait, la TVA, c'est neutre pour l'entreprise. Elle ne la paye pas, elle ne fait que la collecter. Et quand elle la reçoit, c'est pas à elle. Les auto-entrepreneurs sont non assujettis, jusqu'à un certain point. Les auto-entrepreneurs ne sont pas assujettis jusqu'à un plafond de... Aidez-moi, s'il vous plaît, parce que je l'ai oublié. Je suis plus auto-entrepreneur depuis plusieurs années maintenant, donc j'ai un peu zappé. C'est pas 72K, non. 72K, c'est le maximum, je crois, de CA que tu peux faire en tant qu'entrepreneur. C'est 30 000 euros? Il y en a qui disent 27 000, d'autres qui disent 30 000. 25 000, la nouvelle loi. Donc les auto-entrepreneurs ne doivent pas collecter la TVA auprès de leurs clients jusqu'à un maximum de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et après, ça augmente. Ah oui, en plus, vous avez raison, ça dépend du type d'activité. Oui, vous avez raison, ça dépend des activités. Ceci n'est pas un stream de conseils en fiscalité. J'espère que vous l'avez bien compris. Là, on est sur de l'à peu près assez stratosphérique. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, faites attention, vérifiez combien d'argent vous gagnez, et à partir d'un certain seuil, vous devez collecter la TVA. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour toutes les entreprises, hein, d'ailleurs. C'est pas possible d'augmenter la TVA sur les produits de luxe, n'impacte pas les plus pauvres. Alors si ça s'appelle la TVA sur le luxe d'ailleurs, je crois que c'est son nom. Ça a existé, c'était dans le programme commun de Mitterrand en 81. Et il y a eu une époque où on a eu la TVA sur la TVA sur le luxe était à 33%. Voilà. Il y a aussi la TVA réduite sur la TVA réduite sur la restauration, qui est à 5,5%. Vous voyez, il y a des taux de TVA différents en fonction des secteurs d'activité. Est-ce qu'il existe des stats sur les tranches de population qui payent le plus de TVA en fonction de leurs revenus? Je serais curieux de savoir si ce sont plus les pauvres en France qui payent la plus grosse partie de la TVA chaque année. Ou plutôt les classes moyennes et supérieures, compte tenu de leur consommation très supérieure. Je ne suis pas sûr parce que la TVA, elle repose essentiellement sur le panier de consommation chez Leclerc. Hein. Elle est là, la TVA. C'est-à-dire la TVA que payent les pauvres, elle est sur la seule chose que les pauvres ont les moyens de s'offrir, je vous rappelle, hein, c'est à bouffer. Donc. TVA réduite qui est répercutée aux clients, bien évidemment. C'est-à-dire, toutes les TVA sont répercutées aux clients. La TVA sur l'abonnement électricité vient de passer de 5,5 à 20%. Eh ben quel bonheur! On est content de l'apprendre, hein, ça fait plaisir. Merci Pouet Cacahuète pour ton sub. Merci Todrax pour ton sub aussi. Merci les copains. Ça fait plaisir. La TVA sociale, le nom est vraiment pompeux alors que c'est un truc antisocial. Ouais, mais l'argumentaire, c'est de dire que la TVA sociale, l'augmentation de la part du budget de la TVA permet de financer les caisses de sécurité sociale. C'est toujours l'argument qui est avancé. Après, vous adoptez pas l'amendement, hein, l'argument, pardon. Vous pouvez adopter des amendements aussi si vous voulez. C'est toujours le dilemme entre équité et égalité. Oui, équité, égalité, et qui doit payer, qui doit participer à l'effort, de quelle manière et à quel montant, quoi. Ça s'appelle la politique, hein. Ça s'appelle la politique, c'est la beauté, d'un débat budgétaire. C'est que justement, on se pose des questions sur ces sujets-là, quoi. Donc ouais, est-ce que vous avez suivi l'actualité politique ces derniers temps, les amis? Est-ce que vous avez suivi des trucs? Parce que moi, je vous avoue que je me suis tenu assez éloigné, hein, de l'actualité politique, à part ce qu'on a eu l'occasion de traiter dans Backseat, évidemment. J'ai vu que Olivier Faure était soutenu par Boris Vallaud, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, Boris Vallaud est beaucoup plus proche d'Olivier Faure que de Maya Rossignol. Non, t'étais pas là. Désolé. International principalement, l'élection en Pologne. Ouais, j'ai vu que Donald Tusk avait perdu. Voyage de Macron en Asie. Ça, j'ai pas trop suivi. Oui, j'ai vu que Macron s'était pris une gifle par Brigitte Macron et que ça avait fait le tour du monde de TikTok. La baffe, la fameuse baffe. James Bond a attaqué la Russie hier. Oh, c'était incroyable, l'opération avec les drones qui a été menée par les Ukrainiens. Pour ceux qui n'ont pas suivi, les Ukrainiens ont réussi à détruire des bombardiers stratégiques nucléaires russes à plusieurs milliers de kilomètres de l'Ukraine, avec des petits drones. Alors les drones n'ont pas franchi des milliers de kilomètres depuis l'Ukraine, mais ils ont été approchés avec des camions, ils se sont plugués sur le réseau téléphonique russe, et ils ont été télépilotés depuis l'Ukraine, par Internet, pour aller sur une base aérienne sur laquelle il y avait plusieurs... Je vais essayer de vous montrer. Ok. Alors c'est tout ce que j'ai. Voilà, les bombardiers que vous voyez qui sont au sol. Ce sont les bombardiers d'élite les plus importants de la Russie. C'est ceux qui permettent à la Russie de bombarder l'Ukraine. Et là, vous voyez des images prises avec des petits drones. Qui vont exploser au contact. Et tout ça se passe à plusieurs milliers de kilomètres de l'Ukraine. C'est une prouesse incroyable. Apparemment, c'est une opération qui est organisée depuis plus d'un an. Donc voilà. C'est fou, hein? Le ping devait être horrible. Ils font surtout partie de leur dissuasion nucléaire. Oui, ce sont des bombardiers qui font partie de la dissuasion nucléaire russe. Non, c'est un coup très important qui a été porté à la Russie, au moral des Russes par l'Ukraine. Est-ce que ça change le tournant de la guerre? Oh, j'en sais rien, moi je suis pas un analyste militaire, je me garderais bien de vous dire s'il y a un tournant dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour moi, le plus important, c'est l'ouverture des négociations. C'est à Istanbul, c'est ça que ça commence à discuter? L'ouverture des discussions entre les Russes et les Ukrainiens, ça peut effectivement être un tournant, s'il y a un cessez-le-feu qui est trouvé. Il est où le chat derrière toi? Il n'y a plus de chat, chers amis. Il n'y a plus de chat, le petit chat qui est venu passer quelques semaines chez moi et retourner chez sa maman, chez sa propriétaire. Malheureusement, elle avait du mal à se faire à son nouvel appartement. On a vu apparaître des petits trous dans son pelage qui sont des signes comportementaux que les chats ne vivent pas très bien. C'est dommage parce qu'avec moi, elle était absolument adorable, elle était super câline et tout, elle dormait avec moi et tout, elle était trop mignonne. Mais malheureusement, on en a conclu que valait mieux la ramener chez elle. T'as pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. Là, pour le coup. Le chat en Lego, il est parti. Non. Regarde, il est là. Je le remettrai là-haut si vous voulez. T'as pas envie d'en adopter un? De chat? Bah malheureusement, à chaque fois que j'essaye, ça se passe pas bien. Donc là, je suis plutôt bof. C'est mieux en maison avec jardin. Oui, enfin, ça vit moins longtemps, hein, les chats qui vont à l'extérieur, malheureusement. Quelle chance tu donnes à une potentielle union de la gauche en 2027? Définis ce que tu appelles union de la gauche. Une union de la gauche qui va de Philippe Poutou à François Hollande. À Raphaël Glucksmann, disons, à mon avis, aucune chance. Pour l'instant, la seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a des initiatives qui ont été prises, notamment en faveur de l'organisation d'une primaire et à la recherche d'une potentielle union. Il y aura une réunion qui aura lieu le 2 juillet prochain entre les responsables de gauche pour discuter et échanger sur les éventualités. Est-ce qu'il peut y avoir une union de la gauche hors LFI et hors Glucksmann? Oui. Mais est-ce que cette union a des chances de faire un score? Je suis pas sûr, hein. Faure veut pas se présenter au présidentiel. Peut-être qu'Olivier Faure a envie d'y aller, oui. Peut-être qu'Olivier Faure a envie d'y aller. Après, entre ceux qui ont envie d'y aller et ceux qui vont effectivement réussir à y aller à la fin, c'est toujours pareil, hein. Est-ce qu'il y aura une primaire? Peut-être, sans doute. Mais il y aura qui participera à cette primaire? Ça, c'est une première interrogation. On en connaît quelques noms, mais pas tous. Évidemment, en même temps, on est à 2 ans, hein. On est à 2 ans de la présidentielle. Si tous ceux qui ont envie d'y aller y vont, on se retrouve avec 150 candidats. Mais oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est qu'il y a quand même des processus de sélection, il y a les 500 signatures, il y a la crédibilité de la candidature. Pour l'instant, ce que moi je constate, mais ça peut changer, c'est que la France Insoumise veut présenter Jean-Luc Mélenchon, que le PCF veut présenter Fabien Roussel en candidature autonome comme d'habitude, et que Raphaël Glucksmann n'a pas l'air de vouloir se prêter à une primaire. Ce que je trouve aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de travail programmatique de la part de toutes les personnes qui disent qu'il faut une primaire ou machin. Ce serait peut-être le moment de reprendre le programme du NFP, le mettre à jour et élaborer une proposition, une plateforme programmatique. Mais ça prend du temps. Ça tombe bien, du temps, on en a et on est à 2 ans de la présidentielle. C'est peut-être le moment de commencer. La primaire, ça intervient avant ou après les municipales? Sans doute après. Sans doute après. Est-ce qu'il y a un monde où Clémence Guettet ou Manuel Bompard sont envoyés à la place de Méluche où je suis des Lulus? Vous savez, une élection présidentielle, c'est une élection qui est très incarnée. Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui réalise les meilleurs scores pour la France insoumise aux élections présidentielles, en l'occurrence. Donc, je pense que les insoumis auraient tort de se priver de leur principal atout, qui est effectivement aussi une faiblesse, mais ça, c'est une question de manière de voir les choses. Est-ce qu'il existe un espace politique entre Jean-Luc Mélenchon et Glucksmann? Bah, oui, je pense quand même. Enfin, en tout cas, il y a du monde. Il y a le Parti communiste, il y a les écologistes, il y a les socialistes. Ça représente quand même pas mal du monde, quoi. Donc le PCF est moins à gauche que LFI. Hein? Ah, tu raisonnes comme ça, toi? Toi, t'as une règle. T'as la gauche, la droite, et tu places les trucs. Ouais. Ouais, je faisais ça aussi avant. Pour les municipales, ça dit quoi l'union de la gauche? Pour les municipales, l'union de la gauche, ça va dépendre des villes. Et ça, clairement, dans les villes qui sont des majorités sortantes, dans les villes qui sont des majorités sortantes de gauche, à mon avis, elles vont y retourner ensemble. Je vois pas pourquoi les écologistes, les socialistes, les communistes qui travaillent ensemble dans certaines villes, décident d'arrêter de bosser ensemble au motif qu'il y a une nouvelle élection municipale qui arrive. Et après, dans les villes à conquérir, bah dans les villes à conquérir, il y aura probablement quelques alliances localement entre les insoumis et les écolos. En tout cas, les insoumis l'ont proposé aux écolos. Donc, à Bagnolet, les insoumis et Europe Écologie Les Verts sont unis contre le PS. Ouais, mais c'est une mairie sortante ou c'est une mairie à conquérir? Si c'est une mairie sortante et que le PS est seul, ça m'étonne pas. Louis Sarkozy va se présenter dans quelle ville, tu penses? Attends, c'est quoi déjà la ville où Louis Sarkozy il a dit qu'il voulait se présenter? Je me souviens plus. C'est quoi la mairie? Menton, c'est Menton. C'est la ville de Menton. Comment ça, mairie sortante et mairie à conquérir? Pour la gauche. Pour la gauche. Il y a des mairies qui sont aujourd'hui de gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle une mairie sortante. C'est-à-dire qu'une mairie qui doit rester à gauche. Et puis il y a les mairies à conquérir, qui sont des mairies actuellement de droite, que la gauche doit conquérir. C'est ça la différence. LFI est capable d'arracher des mairies au PCF. Peut-être, ouais, peut-être. Après, la France insoumise, c'est surtout dans les quartiers populaires qui font leur meilleur score, donc oui, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques villes communistes, mais est-ce que ça vaut le coup d'enlever une ville aux communistes quand t'es insoumis? Je sais pas. Si c'est pour faire le même programme qu'eux, au niveau local, c'est quoi la grande différence? L'expérience de Villeneuve-Saint-Georges va sûrement pousser LFI à la jouer plus collectif. Oui, sans doute, mais la France insoumise a très très peu d'ancrage local. Donc la France insoumise a besoin de pouvoir s'appuyer sur des collectifs locaux, de gens déjà existants, de militants, d'habitants, d'associations. Et ça, pour ça, oui, conquérir une mairie à partir de rien, c'est très difficile. C'est très très difficile. Est-ce que le RN est capable de prendre des mairies? Oui, ils l'ont déjà démontré. Le Rassemblement national a un ancrage local assez fort, surtout dans le nord et dans le sud-est. Et oui, à mon avis, le Rassemblement national va progresser, ouais. Mais là, c'est pareil. Est-ce qu'il y aura des unions de la gauche? Est-ce que ça vaut le coup de faire des unions de la gauche pour réussir à empêcher le RN d'obtenir des mairies. J'en sais rien, je parle pas à la place des militants locaux, c'est eux qui savent mieux que moi. Quelle est la plus grosse mairie de LFI actuellement? Oh, c'est pas énorme, hein. LFI, ils ont deux mairies, je crois. Les socialistes, ils en ont des milliers. L'union, c'est la réalité quotidienne hors campagne nationale. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça aussi que c'est difficile d'avoir des analyses nationales sur des scrutins locaux comme les élections municipales. Parce que les dynamiques locales sont très difficiles à lire, elles sont spécifiques. LFI a acté sa liste solo à Marseille, alors que la ville est déjà gérée par une union citoyenne de la gauche. LFI va contester la gauche marseillaise? Ok. Ben on verra ce que ça donne, mais ouais, on verra. Il y a combien de mairies en France? 33, 34 000. Alors ça a un peu changé. En fait, ça a bougé parce qu'il y a eu des fusions de communes. Et je ne sais jamais combien il y a eu de fusions de communes, donc à chaque fois je me perds. C'est 35 000, 34 900. Ok. Bienvenue aux gens qui viennent de chez Clément, hein. Bienvenue à vous. Les appareils nationaux, souvent, ils s'en foutent des élus locaux. Ça leur donne plus de latitude pour discuter avec les voisins politiques. Ouais, mais t'as aussi. En fait, ça dépend des appareils nationaux, hein. Ça dépend vraiment des appareils nationaux. Parce que tu en as qui vont être des fédérations et qui vont vachement laisser de liberté au niveau local pour décider. Merci Laure, merci Serginou, merci Camine, Mazix, PT, Petit Caf, Zébulon. Merci pour vos abonnements, les copains. Ça fait plaisir, merci, merci. J'en profite pour vous dire que demain à 10h30 du matin, il y aura un live spécial sur ma chaîne en partenariat avec le Crédit Mutuel dans le cadre d'un partenariat avec Baxit. En fait, c'est avec Baxit qui est le partenariat. Mais en fait, on veut, enfin, le Crédit Mutuel veut parler de son dividende sociétal. C'est la quantité d'argent du bénéfice de la banque Crédit Mutuel qui est reversée chaque année à des associations, à des ONG. Comme le Crédit Mutuel est une banque démocratique, c'est une banque mutualiste, comme son nom l'indique, ils ont décidé, les sociétaires ont décidé de reverser une partie des bénéfices de la banque à des organisations. Et donc, pour en parler, je vous donne rendez-vous demain à 10h30 et je vais vous présenter un certain nombre d'organisations qui bénéficient du crédit sociétal. Et je vais aussi interviewer le président de la banque à 10h30. Donc, soyez là à 10h30. C'est 10h30, c'est pas 8h30. Non, c'est 10h30. Banque et démocratique dans la même phrase, ça doit en faire bugger plus d'un. Bah, ceux qui connaissent pas l'histoire du mutualisme, oui. Mais les autres, non, ils savent. Comme le crédit coopératif. Ouais, comme le crédit coopératif. Le stream de Klemovic est fini, j'ai le droit de dire bonsoir, il paraît. Et bienvenue. Installe-toi. Merci Blonde Bunny et merci Rizouya pour vos abonnements. Ouais, on était en train de parler des municipales et de dire que voilà, ça dépend beaucoup des dynamiques locales, ça dépend beaucoup de ce qui se passe, de ce qui se passe au niveau local et que c'est pas facile d'avoir des analyses nationales. Il y a quand même des partis qui ont des stratégies nationales. Je me souviens de Marine Le Pen en 2020 qui avait donné la stratégie de plus de 300 maires RN. Une stratégie qui avait été assez catastrophique parce qu'elle n'avait pas du tout remporté ses objectifs. Donc c'est demain Baxit? Non, 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 demain c'est pas Baxit. Demain c'est une émission spéciale. Pour interroger le Crédit Mutuel. Je serai en direct du Palais d'Iéna à Paris, où siège le Conseil économique, social et environnemental d'ailleurs. Voilà, je vous donne rendez-vous demain, vous verrez, je serai sur place, on a un petit plateau qu'on a prévu et tout. Non, non, vous allez voir, ça va être trop bien. Vous allez rencontrer des associations trop cool. J'ai toujours aimé vous présenter des associations, j'ai toujours aimé vous présenter des institutions que vous connaissez mal. Bah là, c'est l'occasion. Le CESE, pour ceux qui connaissent pas très bien. Bon, en même temps, demain, c'est pas une émission spécifique sur le CESE. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. Est-ce qu'on peut venir sur place? Je crois pas, non. C'est un événement du crédit coopératif. Du crédit mutuel, pardon. Il y a quoi d'autre comme sujet d'actu politique que vous avez vu passer? Encore une fois, j'ai besoin de me remettre dans le bain avec vous, grâce à vous. La statue de Macron, ce n'est pas une actualité politique. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, à part vous dire que la statue de cire d'Emmanuel Macron a été volée dans le musée Grévin à Paris et qu'a priori ça aurait été revendiqué par Greenpeace. Point. Ça s'appelle une dépêche AFP. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a rien à en dire. Branco au présidentiel. Bah, bon courage. C'est politique quand même s'il y a une action de Greenpeace. Dis-m'en plus. Dis-m'en... Toi, dis-m'en plus, parce que moi, je ne sais pas quoi vous en dire. Hein. Greenpeace est une ONG qui lutte contre l'inaction climatique et pour la préservation de l'environnement. Ils sont connus pour leurs opérations coup de poing et très médiatiques. Ils ont volé la statue de Macron, sans doute pour dénoncer l'inaction climatique de la France. Je suppose, j'en sais rien, j'ai pas lu. C'est de l'écoterrorisme. Oui. C'est de l'écoterrorisme. Putain. Pauvre militant de Greenpeace, en vrai, un courage. Hein. Peut-être pour rendre la cire aux abeilles. Vous êtes con. Non, j'ai un article à lire si vous voulez. Parce que moi, j'ai un peu du mal à savoir où est-ce qu'il en est et quoi en penser de la candidature de Édouard Philippe, dis donc. Édouard Philippe, ça fait longtemps, Édouard. Alors, c'est un tout petit article de Libé. On va le lire ensemble. Ça va être très rapide. Hop, stratégie, Édouard Philippe et Emmanuel Macron ensemble, séparément. Malgré leurs inimitiés, les deux hommes pourraient jouer le pragmatisme et se rapprocher en vue de 2027, notamment pour barrer la route à Gabriel Attal. Oh merde. D'accord, ah ouais, c'est ça l'ambiance. Entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, les amabilités continuent. Dans son entretien au Point, le maire du Havre incrimine une fois de plus le chef de l'État. Je cite, La grande faiblesse que nous vivons en ce moment vient en partie de la campagne de 2022, au cours de laquelle le président de la République ne s'est pas engagé sur un programme clair. Ouf. Ok, non, l'arbitre note un point. L'intéressé le lui rend bien. En visite à Madagascar le 24 avril, Macron ironisait, fasciné par la stratégie de Philippe de ne révéler ses propositions massives pour réformer le pays qu'après les élections municipales de 2026. Je cite, Il y a toujours des gens qui disent, vous allez voir ce que vous allez voir, quand je vais arriver, alors là, ça va chauffer. Mais venez! Mais vraiment, on n'a pas le temps d'attendre. Pas de cynisme, pas de faux-semblants. Ah, ça s'envoie. Attends, hop. L'inimitié n'empêche pas le réalisme. Les proches des deux hommes spéculent désormais sur un soutien concédé de guerre lasse par le président. Plus on va se rapprocher de mai 2027, plus l'idée d'être raccompagné par le représentant du RN sur le perron de l'Élysée risque de lui faire horreur, anticipe un député Horizon. À la fin des fins, on revient à l'essentiel. Des proches d'Emmanuel Macron, comme l'ex-ministre Sabrina Agresti-Roubache, n'ont pas été dissuadés d'assister au meeting d'Horizon à Marseille, le 17 mai. Jusqu'ici, le mot d'ordre du chef de l'État à ses intimes était plutôt « les gens de chez moi, pas chez lui ». Plus qu'un Édouard Philippe, c'est Gabriel Attal que l'Élysée a désormais dans le collimateur. Bah oui. Tout est bon pour le punir d'avoir pris le parti Renaissance contre l'avis d'Emmanuel Macron, et pire, d'effacer peu à peu le chef de l'État de la communication du mouvement. Ah, le crime de lèse-majesté, le crime de lèse-majesté qui a été commis par Gabriel Attal. Si le président devait choisir, il irait plus volontiers vers Édouard Philippe, qui a été loyal, a pris son indépendance, mais ne tape pas gratos sur lui. Veut croire une grande élue Horizon. Pardon. En quête de différenciation, le camp Philippe ne veut ni de guerre avec le château, ni d'un soutien trop marqué. Loyal mais libre, il se montre solidaire que de la période 2017-2020, quand il occupait Matignon. Force est de constater qu'à partir de 2020, il n'est plus au gouvernement et encore plus autonome à partir de 2022, insiste un proche du Havrais. Ouais, alors, moi, la thèse de l'article au tout début dans le chapeau, comme quoi les deux hommes pourraient jouer le pragmatisme et se rapprocher en vue de 2027, moi, j'y crois pas, hein. Là, de ce que je lis, l'ambiance entre Macron, Édouard Philippe, pardon, et Gabriel Attal, elle est glaciale. Je n'arrive pas à imaginer un scénario dans lequel ils arrivent à se départager. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui départagera? En fait, c'est la vraie question, et c'est une question qui peut avoir des incidences aussi sur la primaire à gauche. C'est, y aura-t-il une primaire des macronistes? Est-ce que oui ou non, il y aura une primaire pour désigner le candidat à la succession d'Emmanuel Macron, quoi. Parce que l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est un adoubement par Macron. C'est Macron qui désigne le candidat qui doit lui succéder. Je sais pas. Et s'il désigne Bayrou? Est-ce que Bayrou sera en situation d'être candidat à l'élection présidentielle? C'est une vraie question. T'as raison, hein, c'est objectivement une bonne question. Hein. Alors que Macron va juste repartir pour 2027 en légende. Ben non, il peut pas. Être adoubé par Macron, c'est pas un risque au vu de sa popularité. En fait, ce que tu dis est intéressant parce que la difficulté pour le camp macroniste, ça va être d'incarner la nouveauté alors que le pouvoir les a épuisés, notamment en termes de popularité. Je vous rappelle qu'il y en avait un qui avait réussi ce pari un peu fou, c'était Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, en 2007, a réussi à incarner la nouveauté. Dans un contexte où il était l'héritier du parti de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, je vous rappelle qu'il était au président de la République depuis 13 ans. Je pense pas que Philippe ait envie d'être vu comme l'héritier de Macron. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il n'y aurait pas intérêt et je pense qu'il a trop d'inimitié pour le vouloir. Si Macron adoube Attal, ça passe. Attal n'a pas été longtemps Premier ministre, les gens se souviendront pas de son bilan, les gens vont voter pour lui parce qu'il est jeune, beau, etc. C'est vrai que c'est le paradoxe de Gabriel Attal qui n'a pas été Premier ministre assez longtemps. T'as raison. Je ne sais pas si vous êtes capable de me donner une grande mesure de Gabriel Attal. Alors, il y avait l'interdiction de l'abaya, c'est la seule qui me revient en tête. Mais à part ça, Gabriel Attal, il n'a pas vraiment marqué. Et ce qui, du coup, paradoxalement, tu as raison, hein, paradoxalement, ça peut donner. Ça peut donner un esprit de nouveauté. Tu casses, tu répares. Tu casses, tu répares, c'était un discours. C'était un discours, c'était pas une mesure. C'était une posture qu'avait Gabriel Attal, très martial, très autoritaire, dans son discours de politique générale, en direct sur la chaîne Twitch de Jean Mercier. Est-ce que ça a marqué les gens? C'est une bonne question. Honnêtement, est-ce que les gens s'en souviennent? Je sais pas. Peut-être que c'est de la perception pure du personnage de Gabriel Attal, ouais. Du coup, ça fait pas très jeune. Ah, mais Gabriel Attal, il veut pas faire jeune, hein. Toute la difficulté de Gabriel Attal, c'est qu'il ne fait pas jeune physiquement. Attal fait vraiment figure de fils paternel alors que Philippe, même ministre, avait des contradictions avec le macronisme. Ouais, t'as raison. J'aime bien l'idée. Dire qu'effectivement, Gabriel, il fait vraiment. Gabriel Attal, il fait fils de Macron. Là où un Édouard Philippe, effectivement, a une forte carrure qui lui permet même de s'opposer à Macron. Donc ouais. Il disait qu'il avait les cheveux blancs à cause de la dernière fonction. Oui, ce qui est possible, j'en sais rien. Alors pour le coup, la couleur des cheveux, je m'en fous un peu, mais. Est-ce que l'âge joue? Bah écoutez, est-ce que l'âge joue, c'est une bonne question. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait été élu très jeune. Hein. Macron a été élu président de la République à 39 ans. Hein. Ce qui d'ailleurs m'a toujours fait dire que Macron n'est pas fini politiquement. Macron va revenir en politique. Moi, j'en suis convaincu. Le mec a fait deux quinquennats de président de la République et il s'en va à 49 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, François Bayrou, il a 70 ans, je crois. Il va aller chercher des mandats européens ou onusiens. Ouais, je pense, ouais. Oui, après, t'as raison. Non, c'est peut-être aussi l'autre solution, c'est que plutôt que de courir à nouveau après un mandat. 74 ans, Bayrou. Ouais, vous avez raison, 74 ans. J'ai rajeuni Bayrou, excusez-moi. Mais ouais, non, effectivement. Il y a moyen qu'on revoie Emmanuel Macron dans la course française, mais il y a moyen aussi qu'on revoie Macron ne courir qu'après les titres européens. Président du Conseil européen, par exemple. Je pense que Macron adorerait être président du Conseil. Secrétaire général de l'ONU. Ouais, j'ai un peu de mal à voir. Ou alors de la Commission. Président de la Commission européenne, Emmanuel Macron, ouais, carrément, ça pourrait lui plaire. Ouais, ça pourrait lui plaire. Bon, après, faut que ça marche, hein. Faut qu'il soit élu, je veux dire. Champion de la Terre. Champion de la Terre. C'était qui déjà qui lui avait remis ce titre? Champion de la Terre. C'était au tout début, hein, c'était 2017, machin, machin. Accord de Paris, tout ça. Est-ce qu'il va pas aller à la direction de telle ou telle banque, Macron? Ah, si Macron a envie de faire du fric, il peut faire du fric, hein, effectivement. J'ai du mal à l'imaginer, mais peut-être que Macron a envie de faire du fric. Je pense que Macron n'a pas envie de cette carrière-là. Il l'a déjà eu par le passé. Macron, il a été banquier d'affaires, il a gagné beaucoup d'argent. Je pense que le fric n'est pas le truc qui l'attire le plus. Je pense que le pouvoir, ça l'attire plus. Est-ce qu'il fera un troisième mandat en 2032? Bah, c'est la question qu'on se pose, hein. C'est la question qu'on se pose à haute voix. Est-ce que Emmanuel Macron va avoir envie de revenir dans la course présidentielle en France à l'occasion des élections présidentielles auxquelles il pourrait se présenter, c'est-à-dire celle de 2032 ou celle de 2037? J'en sais rien. Est-ce qu'il pourrait devenir député? Je pense pas, non. Ça paraît plausible, mais improbable qu'il soit réélu. Oh là, vous savez. Sur cette chaîne, hein, on s'est plus ou moins donné le mot de. On fait pas trop, trop, trop de prédictions. On peut être surpris par des dingueries. Hein. Regarde Trump, regarde Trump. Trump, hyper impopulaire, qui fait une tentative de coup d'État. 4 ans plus tard, il est élu. Et largement, hein, élu. Pas bizarrement élu. Non, non, largement élu. Est-ce qu'il y a le droit à trois quinquennats? Non, il y a le droit à autant de quinquennats que tu veux. La seule limite que tu as, c'est que tu n'as pas le droit d'en faire plus de deux consécutifs. Ce qui veut dire qu'au-delà de deux mandats consécutifs, tu es obligé de laisser passer au moins un mandat. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Sauf si tu changes la constitution. Ouais, je vois pas très bien qui pourrait changer la constitution là. Avec le parlement qu'on a, voter une augmentation du nombre de mandats présidentiels. Non. Non, il n'y a aucun scénario où le RN et la gauche votent un truc pareil. Après, on peut être surpris. Par référendum? Est-ce que vous pensez que par référendum, le peuple français va accorder à Emmanuel Macron un troisième mandat? On peut être surpris, hein. Cent 10% pour le non. Vraiment pas fan de tous ces questionnements. Ah bah, propose-en d'autres, hein. 83% des Français sont de nouveau unis. De nouveau unis contre Macron, à 83%. Non, mais c'est pour ça que... Non, non, il n'y aura pas de... Il y aura une élection présidentielle très probablement en 2027. Avant, il y a peu de chances. Au cours de laquelle c'est encore très compliqué de lire quelles vont être les propositions. Par exemple, il y a une vraie question que moi je me pose, c'est est-ce que le bloc macroniste va rester uni? Parce que le bloc macroniste, ça représente 20%, 25% au premier tour. Il y a quand même 25% des voix au premier tour qui sont des voix pour Macron. Okay? Si à la place de Macron, c'est Édouard Philippe ou Gabriel Attal, est-ce qu'ils vont faire 23-25%? Moi, je crois pas. Je pense qu'il y a une partie des électeurs qui vont se barrer, qui vont aller voter ailleurs. Et ça peut bénéficier à droite, probablement pas à Marine Le Pen, mais à Bruno Retailleau. Et à gauche, ça peut bénéficier à Raphaël Glucksmann, je pense. C'est une aberration, ça. De quoi qu'est une aberration? Les résultats des élections sont aberrants. Ah bah, oui. Oui, bah oui. Ils vont l'être souvent. Le bloc de droite va sûrement devenir une réforme de toute façon. Se reformer de toute façon. Ça dépend ce que tu appelles le bloc de droite, hein. Si tu parles de la fusion de l'UMP, enfin du RPR et de l'UDF, ça veut dire qu'on aura une fusion prochaine des Républicains avec les Macronistes? Fusion, je pense pas. Accord de coalition, peut-être. La dynamique peut tellement changer juste en quelques mois. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Les dynamiques, quelles qu'elles soient, hein, les dynamiques au pluriel, peuvent énormément évoluer. La fracture autour de l'Union européenne reste forte au centre et à droite. À droite, de moins en moins. Hein. Depuis que Marine Le Pen a mis de l'eau dans son vin. Ça fait 10 ans maintenant, bientôt 15 ans. Est-ce que Macron pourrait préparer et organiser son retour en 2032? Ben oui. Oui, bien sûr. En 2032, Emmanuel Macron aura le droit de se présenter à l'élection présidentielle. S'il a envie de redevenir président de la République, il faut qu'il se prépare, oui. Bah, il a le temps, hein, d'ici là. Les LR, ils sont de moins en moins européens quand même. Ça peut être une nouvelle ligne de fracture. Ils sont moins européens, les républicains? Sur la base de quoi? Parce que pour le coup, ils sont représentés par le PPE au Parlement européen, ça n'a pas l'air de les gêner. Sur l'agriculture, peut-être, sur les normes. Le premier parti au PE, c'est le PPE. Oui, c'est le PPE et qui est représenté à la Commission européenne aussi. Ils sont très conservateurs au niveau européen, ils ne votent pas toujours en accord avec le PPE. Oui, mais ça, qu'il y ait des dissensions dans les groupes au Parlement européen, ça arrive assez souvent, notamment pour les groupes de nationalité. Pour ce qui est de la France, oui, c'est possible que les députés français du PPE ne votent pas de la même manière que le reste du groupe sur certains sujets très spécifiques. Notamment pour protéger l'indépendance agricole, l'autonomie, la souveraineté française et tout. Ils sont peut-être plus conservateurs que le PPE de certains pays d'Europe du Nord. Je veux bien le croire. Ah non, je suis pas dans la bonne catégorie, t'as raison, pardon. Doum, doum. Voilà. Les LR ne soutiennent pas vraiment von der Leyen. Oui, mais ils s'y opposent pas bruyamment non plus. En tout cas, leur priorité, elle n'est pas là. De ce que j'en perçois. Les amis, je vous rappelle que demain à 10h30, je vous donne rendez-vous à 10h30 sur mon stream. Je serai en direct du Palais de Iéna à Paris, là où siège le Conseil économique, social et environnemental. Et je vous proposerai une émission spéciale en partenariat avec le Crédit Mutuel. C'est plutôt un partenariat avec Baxit. Et émission au cours de laquelle je vais interviewer un certain nombre d'intervenants, dont le président de la banque, qui vont tous venir nous parler du crédit sociétal, le dividende sociétal, qui est la part des bénéfices de la banque qui sont réinvestis chaque année dans des projets d'intérêt général, notamment des associations. Donc je vais vous présenter des associations. Donc venez, ça va être cool. Et voilà, ça va être chouette. Merci à vous d'avoir été là. Je vous fais un bisou. Est-ce que tu peux donner le nom de quelques assos que vous présentez demain? Attends, j'ai le document sous les yeux. L'association Incaba pour un étudiant qui fait de la solidarité étudiante. Le PDG de Voyageurs du Monde et le réseau Air France qui bossent sur la dépollution et la lutte contre le réchauffement climatique. Et enfin, le dernier, c'est pas une asso en fait, c'est Antoine Paillon, ancien secrétaire général de la planification écologique. Pas mal. Eh ben, je vous fais des bisous. Merci d'être venu. Je vais m'arrêter là. Passez une bonne soirée et on se retrouve demain donc à 10h30 sur ma chaîne. Et ça va être trop cool. Merci à vous. Des bisous à demain.